Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. To Go, Nouveau Projet, Sélection du Reader's Digest et Urbania. Au programme, 9 étapes pour prendre de meilleures décisions, Francophonie résiliente, Qu'est-ce qu'un mantra et comment bien le choisir, et 4 associations étudiantes un peu loufoques. Bonne écoute.
Neuf étapes pour prendre de meilleures décisions. Un texte de Mouvement Santé Mentale Québec paru le 17 mai 2022 dans le magazine To Go. La vie est une série de choix. Certaines décisions sont simples à prendre, comme choisir un resto ou la destination d'un voyage. D'autres sont plus complexes, accepter ou refuser un emploi, avoir un enfant ou pas, déménager ou non dans une autre ville. Il est alors normal de ressentir de l'incertitude. Comment choisir ce qui est le mieux pour nous dans ces moments-là? Voici une façon de nous y aider. 1. Définir son besoin. Pour arriver à prendre une décision éclairée, il est bon de définir notre besoin. De quoi a-t-on envie? Qu'est-ce qui est possible en ce moment? Quelles seront les conséquences de notre choix? Se sent-on capable de les assumer? Évidemment, pour répondre à ces questions, se réserver un moment au calme est nécessaire. Difficile en effet d'y arriver si on fait 1000 choses en même temps. Ça vaut donc la peine de se mettre dans le bon état d'esprit pour entamer ce processus. 2. S'informer. Avant de prendre une décision, on rassemble des informations. Quels sont les renseignements dont on a besoin? Quelles sont les meilleures sources pour les trouver? Il est important de se baser sur des sources fiables. On se demande à quel moment prendre sa retraite. On collige toute l'information nécessaire pour se faire une tête. Nos besoins en matière de revenus, la façon de remplacer les liens créés avec nos collègues, la concordance ou non de notre retraite et celle de notre partenaire, etc. 3. Évaluer différentes possibilités. Au fur et à mesure qu'on recueillera des informations, on trouvera sans doute plusieurs solutions possibles. Pour faire un tri, on tente d'imaginer ce qui se passerait si on choisissait telle option, quel impact cela aurait sur notre vie, notre famille, notre partenaire, comment on se sentirait, quels seraient les obstacles qu'on pourrait rencontrer, etc. Puis, on refait l'exercice avec une autre solution, et ainsi de suite. En voyant ce qu'implique chacune des options, ça nous permet de mesurer les effets avant d'opter pour l'une d'elles. 4. Penser à ses objectifs et à ses valeurs. Après avoir évalué différentes options, on devrait commencer à en privilégier certaines. On peut les placer en ordre de priorité en fonction de nos objectifs et de nos valeurs. Il est primordial de demeurer fidèle à qui on est et à ce qui compte pour nous. On a alors plus de chances d'aboutir à un résultat qui nous apportera satisfaction. On veut changer d'emploi pour avoir un meilleur salaire, par exemple, ce qui est bien compréhensible. Mais les autres conditions de travail ont aussi à être mises dans la balance. Les collègues seront-ils aussi sympathiques? La charge de travail sera-t-elle plus lourde? Le temps de voyagement augmentera-t-il? Pourra-t-on passer plus de temps en famille comme on le souhaite? 5. Dresser une liste des pour et des contre. C'est le temps de dresser une liste de pour et de contre. Quand on est devant une décision importante, on perd parfois de vue la situation dans son ensemble. Faire une liste des avantages et des inconvénients de chaque solution, puis les comparer, nous aide à y voir plus clair. Parfois, les inconvénients ne sont pas aussi sérieux qu'on le pense, ou les avantages apparaissent si évidents que le choix s'en trouve vraiment facilité. 6. En parler aux autres. Il peut être avantageux de connaître le point de vue d'une autre personne sur notre situation, surtout si cette personne a eu à prendre une décision semblable au cours de sa vie. Ça nous permet d'envisager la situation d'un autre point de vue, de voir si des choses nous ont échappé ou encore de nous apercevoir en parlant qu'une décision émerge puisqu'on est en train d'argumenter en sa faveur. 7. Passer à l'action. On a pris notre temps, on s'est posé les bonnes questions, on a pesé le pour et le contre, on a demandé conseil. Bref, on a fait de notre mieux. Il est temps de se faire confiance et de passer à l'action. 8. Assumer ses décisions. Dire oui à quelque chose, c'est dire non à autre chose. Une fois notre décision prise, on l'assume. Pour avancer, il faut se mettre en mouvement et regarder vers l'avant. 9. Se donner le droit à l'erreur. Prendre une mauvaise décision, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est d'apprendre de nos erreurs. Notre nouvel emploi ne nous satisfait pas. On peut se donner le temps d'y voir plus clair et, au moment opportun, entamer une nouvelle recherche en sachant pourquoi ça n'a pas marché. On n'oublie pas de prendre aussi conscience de toutes nos réussites. Cette bienveillance envers nous-mêmes nous mettra dans un état d'esprit propice à la prise de bonnes décisions. C'était 9 étapes pour prendre de meilleures décisions, un texte du Mouvement Santé Mentale Québec paru le 17 mai 2022 dans le magazine To Go.
Edmonton, Alberta, francophonie résiliente. Un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet, où Valérie Lapointe-Gagnon nous fait part des inquiétudes des franco-albertains-albertaines. Si on m'avait dit il y a 10 ou 15 ans que j'allais vivre en Alberta, je ne l'aurais pas nécessairement cru. Comme plusieurs Québécois et Québécoises, j'entretenais des préjugés peu favorables à l'égard de la province pétrolière de l'Ouest, où le bleu conservateur domine la carte politique depuis des décennies. Il y a 7 ans, c'est ma trajectoire universitaire qui m'a fait atterrir dans la capitale, où j'enseigne l'histoire canadienne au campus Saint-Jean, le campus francophone de l'Université de l'Alberta. Si nous ne sommes plus à l'époque du Speakwhite, les effets des crises scolaires du tournant du 20e siècle, qui ont uniformisé le système d'éducation pour créer de bons petits citoyens et bonnes petites citoyennes britanniques, se font encore ressentir. La Charte canadienne des droits et libertés de 1982 et son article 23, en donnant droit à l'éducation dans la langue de la minorité, ont permis une certaine réparation. Mais le système scolaire francophone est récent et l'attrait de l'anglais est puissant. Les premières écoles francophones sont apparues en Alberta au milieu des années 1980, à une époque où seule une poignée de militants-militantes semblait encore croire à la possibilité d'une éducation entièrement en français. Mes étudiants et étudiantes représentent donc, pour la plupart, la première ou la deuxième génération à renouer avec la langue de leurs ancêtres. Dernièrement, les inquiétudes passées sont revenues hanter les francophones de la province et du pays. Il y a eu tant de recul. Le premier ministre s'est souvent plu à épater la galerie avec son français bien maîtrisé. Mais ce n'est pas parce qu'il connaît la langue de Molière qu'il l'estime. Au contraire, depuis son élection en 2019, son régime de rigueur budgétaire a causé des ravages dans les universités albertaines, affectant particulièrement la faculté Saint-Jean et sa communauté francophone. Professeur émérite de ce même campus, le politologue Ed Anger a bien montré l'ironie dans le traitement des francophones de la province. Le gouvernement qui prône depuis des décennies le non-interventionnisme en matière de langue, le bilinguisme relève du choix individuel, n'hésite pas à dépenser l'argent des contribuables pour limiter la progression du français. La dernière preuve de ce néolibéralisme linguistique? Plutôt que de donner au campus Saint-Jean le manque à gagner pour qu'il puisse poursuivre sa mission, le gouvernement Kenney a préféré embaucher une firme d'avocats d'avocates pour se défendre contre la communauté francophone qui a intenté une poursuite visant à protéger l'avenir du campus. J'ai grandi sans trop savoir que la francophonie canadienne existait hors de l'Acadie. Mes cours d'histoire au secondaire étaient des cours d'histoire nationale. J'évoluais en pensant qu'à l'extérieur du Québec et des provinces maritimes, la francophonie n'avait point de salut. En arrivant ici, j'ai été témoin d'histoires poignantes, comme celle de cette étudiante dont les ancêtres ont fondé le hameau francophone de Plamondon et qui a fait une conférence sur ses archives familiales devant ses proches, émus, qui ne pouvaient pas la comprendre parce qu'il et elle avaient perdu l'usage du français en raison de l'assimilation. J'ai découvert des parcours fascinants, un goût de vivre en français inspirant et une lutte constante contre l'anglo-conformité. Au contact de cette relève allumée et engagée, mes préjugés ont été ébranlés. Valérie Lapointe-Gagnon est professeure agrégée d'histoire à la Faculté Saint-Jean de l'Université de l'Alberta et présidente de l'ACFAS Alberta. En 2018, elle a publié chez Boréal l'essai « Penser le Canada, une histoire intellectuelle » de la commission Laurando-Dunton, lauréat du prix de la présidence de l'Assemblée nationale du Québec. Elle est chroniqueuse politique à La Presse Plus. C'était « Francophonie résiliente », un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 du magazine Nouveau Projet de Valérie Lapointe-Gagnon.
Qu'est-ce qu'un mantra et comment bien le choisir? Un texte de Denise Mann, paru le 28 mai 2021 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Deepak Chopra et d'autres experts partagent leur définition du mot mantra, sa signification et son rôle dans la pratique de la méditation. La méditation et le mantra. La méditation aide des millions de personnes à gérer le stress du quotidien. Pour plusieurs adeptes de la méditation, le mantra est la clé afin d'obtenir tous les bienfaits mentaux et physiques de la pratique méditative. Cela peut sembler mystérieux, mais en voici la définition. Un mantra est une syllabe, un mot ou une phrase que l'on répète lors de la méditation. On peut le parler, le chanter ou le chuchoter, ou encore seulement y penser. Il existe plusieurs types de méditation, dont quelques-unes qui n'impliquent pas l'utilisation d'un mantra. Certaines vous poussent à vous concentrer sur votre respiration, sur un son ou sur une visualisation apaisante. Le but principal de toutes les pratiques méditatives est d'accentuer votre attention sur le moment présent plutôt que sur vos pensées. La plupart des types de méditation n'impliquent pas d'équipement ou d'outils spécifiques. Afin de pratiquer la méditation avec un mantra, vous n'avez besoin que d'un endroit calme où vous asseoir dans une position confortable et, bien sûr, un mantra. L'origine des mantras. Les mantras sont utilisés depuis longtemps dans les traditions spirituelles dans l'Est et l'Ouest. Ils sont aussi la base de la prière dans la tradition des chrétiens bénédictins, explique Deepak Chopra, expert en méditation et fondateur de The Chopra Foundation. Les mantras sont davantage utilisés dans les traditions méditatives asiatiques, mais on les retrouve tout de même dans les religions occidentales comme la prière de Jésus dans l'Église orthodoxe orientale, précise Cortland Dahl, chercheur scientifique à l'Université de Wisconsin-Madison. Quelle est la signification du mot « mantra » ? Le mot « mantra » a deux origines, « man » et « tra », explique le docteur Chopra, qui est aussi un professeur clinicien de médecine familiale et de santé publique. Le « man » est relié étymologiquement à « homme »,« humain »,« femme » et « esprit », dit-il. « Tra » est un instrument de l'esprit qui vous transporte au-delà de l'esprit jusqu'à sa source, qui est la conscience. Tout comme les exercices de respiration, le mantra vous éloigne du processus de pensée, votre dialogue interne, dit-il. Il y a des moments où il n'existe plus de mantra ou de pensée. Ces moments sont appelés la transcendance. Il est aussi important de distinguer un mantra d'un autre mot ou d'une autre phrase ordinaire que vous pourriez répéter dans une routine de méditation, explique Dahl. Un mantra est généralement enraciné dans des écrits spirituels ou religieux et ne peut être changé ou altéré. Prendre un mot ou une phrase comme « amour » et le répéter peut être une excellente façon de méditer, mais n'est pas considéré comme un mantra, dit Dahl. Comment choisir votre mantra? Vous pouvez choisir votre propre mantra ou vous inspirer des mantras plus génériques. Le livre du Dr Chopra en contient 52. Toutefois, dans la tradition de la sagesse orientale, les mantras peuvent être choisis selon l'astrologie védique, dit Dahl. Les traditions bouddhistes ont leur propre méthodologie afin de sélectionner des mantras. Traditionnellement, un professeur ou un dirigeant religieux peut attribuer un mantra à un élève pour une certaine période, dit-il. Si vous ne faites que commencer, vous pouvez demander un mantra à votre professeur. Le tout peut être basé sur une panoplie de facteurs. L'élève pourrait avoir une affinité particulière avec un type de mantra, ou encore être à un moment dans son cheminement spirituel où un mantra précis lui serait bénéfique, explique Dahl. Selon Dahl, il n'y a pas de bon ou de mauvais mantra. Neda Gould, directrice du programme de pleine conscience à l'Université de Baltimore, est d'accord. Ce qui est important, c'est de trouver le bon mantra qui s'aligne avec vous et vos intentions futures, dit-elle. Demandez-vous pourquoi vous méditez. Pour réduire le stress et devenir calme? Pour avoir une meilleure confiance en vous? La réponse pourrait guider votre choix de mantra. Écrire quotidiennement vos pensées pourrait aussi vous aider à choisir le bon mantra. Exemple de mantra. Votre mantra peut être un mot ou une phrase. Vous pouvez aussi répéter une syllabe comme le classique « om » associé à la méditation. Voici quelques exemples concrets de mantras utilisés en méditation. Je suis calme. Je suis présent en ce moment. Je suis en paix. Je vainc mes peurs. Je suis heureux dans mon corps. Composer son propre mantra fait partie des trucs qui aident à mieux gérer le stress. L'utilisation d'un mantra. Vous connaissez maintenant la définition du mot mantra et vous avez choisi celui qui vous convenait. Vous êtes donc prêt à méditer. D'abord, mettez-vous à l'aise. Choisissez un endroit tranquille où vous pourrez vous concentrer. Respirez profondément en vous concentrant sur votre respiration. En continuant le rythme de la respiration, commencez à répéter votre mantra. Votre esprit pourrait s'égarer. Ne vous en faites pas. Lorsque le phénomène se produit, concentrez-vous à nouveau sur votre mantra. Vous pouvez continuer autant que nécessaire ou encore vous servir d'un chronomètre. Les bienfaits de la méditation par mantra. Tous les types de méditation offrent des avantages physiques et mentaux, mais le but de la méditation n'est pas d'anticiper une réponse, dit le Dr Chopra. Tout le monde ressent un état de relaxation et de repos profond, ajoute-t-il. Avec le progrès, on obtient de nouvelles perspectives qui nous mènent à des révélations et à de l'inspiration. Comme les autres types de méditation, la méditation par mantra favorise une meilleure conscience et compassion envers soi-même, moins de stress, plus de calme et une attitude plus positive. En effet, une étude publiée dans le European Journal of Integrative Medicine a prouvé que la méditation par mantra, qui inclut la méditation transcendantale, peut avoir des effets positifs sur la santé mentale. Le tout ne prendra que peu de votre temps. Vous pouvez méditer en 10 minutes. Si vous avez de la difficulté à allouer du temps à votre méditation, essayez de pratiquer le matin. Un bonus de la méditation, c'est qu'elle ne coûte pas grand-chose. C'était « Qu'est-ce qu'un mantra ?» et « Comment bien le choisir ?» un texte de Denise Mann, paru le 28 mai 2021 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
Quatre associations étudiantes un peu loufoques. Un texte de Clara Beaulieu, paru le 14 février 2022 dans Urbania. À l'université, trouver sa place n'a jamais été aussi facile. Les nombreuses associations étudiantes permettent aux universitaires de se rencontrer et de se lier autour d'intérêts communs, qu'ils soient nichés ou non. J'ai appris très récemment que l'Université McGill hébergeait la McGill Wine Society, une association étudiante visant à élargir les connaissances des McGillans sur le vin. Depuis cette trouvaille assez cocasse, je me suis intéressé à savoir s'il y avait d'autres clubs étudiants aussi singuliers. J'ai fait des découvertes très surprenantes, dont quatre associations étudiantes particulièrement loufoques. Comité aquariophile de l'Université du Québec à Rimouski. L'aquariophilie est un passe-temps apparemment très populaire à Rimouski, si bien que l'Université du Québec à Rimouski, l'UQAR, chapeaute un comité dédié à cette pratique. Appelés « les poissons » par le fondateur, les membres du comité sont responsables de l'entretien des aquariums de l'université en plus de sensibiliser les gens à une bonne utilisation et un achat responsable des aquariums. Il s'agit d'une initiative lancée en 2012 par un étudiant qui déplorait le manque de connaissances sur les poissons. Aujourd'hui, il est question d'un regroupement qui occupe une place importante au sein de la vie étudiante à l'UQAR, si bien qu'il a remporté en 2020 le titre de « Regroupement étudiant de l'année ». Je dirais que la grande particularité du comité est que, bien que le comité lui-même passe inaperçu dans ses activités, le résultat est visible pour tous et est considéré comme une portion esthétique normale propre à l'UQAR. Henrik, ancien coordinateur du comité. Société mycologique de Concordia. La Société mycologique de Concordia, Concordia Mycological Society, est un regroupement étudiant dédié à l'étude des champignons. Notamment, elle offre aux universitaires d'en apprendre davantage sur ces organismes mythiques. Entre autres, les membres ont accès à des séances éducatives dans le but de démystifier certaines idées entourant les champignons. Également, au cours de l'année, la société organise plusieurs excursions en forêt visant à cueillir des champignons, une activité qui semble très populaire au sein des membres du groupe. La Société mycologique de Concordia est un regroupement étudiant qui n'a vu le jour que 2 ans plus tôt. Pourtant, l'initiative semble avoir poussé comme un champignon, car elle compte déjà près de 600 abonnés sur sa page Facebook. Ça sonne vraiment quétaine et salé, mais pour moi, l'important, c'est vraiment le développement d'une communauté de personnes diverses et intéressantes. Arnaud, coprésident et fondateur de la Société mycologique de Concordia. Cutie. Encore à l'Université Concordia, les adeptes de thé ont la chance de déguster leur boisson chaude préférée lors d'activités organisées par Cutie, Concordia University Tea Enthusiast Association. Fondée en 2014 dans le but de générer des interactions sociales ainsi qu'un sens de communauté, l'association comptait déjà près de 200 membres l'année d'après. Un peu moins actif qu'il ne l'était à sa création, le regroupement prend plaisir à organiser des séances d'études zen ou encore des tea parties. La diversité rend le club incroyable. Le thé a une histoire culturelle riche et des traditions qui peuvent être explorées et célébrées à l'échelle mondiale. Ainsi, la diversité du corps étudiant de l'Université Concordia est très importante pour notre club. Suzanne Pereira, représentante du club. Mentions honorables. Avant de dévoiler ma dernière découverte, j'aimerais saluer l'Université McGill pour la diversité qu'elle offre dans la vie étudiante. J'ai constaté très rapidement qu'elle chapeautait des regroupements de toutes sortes. En effet, même les intérêts les plus atypiques y trouvent leur place. Entre autres, j'ai découvert qu'il y avait des associations pour les amoureux et amoureuses du chocolat, les amateurs et amatrices de musique métal, et même pour les passionnés de Quidditch. Letos Club McGill, une association étudiante qui ne se rencontre qu'une fois par an. C'est ce que propose Letos Club McGill. Il s'agit d'un regroupement étudiant construit autour d'un concours de mangeurs et mangeuses de laitue. Un concept très inhabituel qui, apparemment, n'est pas unique en son genre. Notamment en Ontario, l'Université Waterloo chapeaute un club de la sorte. À tous les ans, pendant 10 minutes, les quelques centaines de membres se réunissent afin de couronner leur nouvelle tête de laitue, soit la personne ayant remporté le concours et qui, par la suite, est chargée d'organiser la prochaine rencontre. Créé en 2021 dans le but de raviver la vie étudiante sur le campus, Letos Club McGill n'a eu que 2 rencontres. En revanche, étant donné la popularité du regroupement, je leur en souhaite beaucoup d'autres. Trouve ta niche. Je suis très heureuse de constater qu'il y ait autant de diversité dans les activités offertes aux universitaires. En soi, même si les 4 associations présentées sont assez atypiques, il n'empêche qu'elles semblent faire plaisir à beaucoup d'étudiants, d'étudiantes. À mon avis, ça ne fait que renchérir l'idée que tout le monde peut trouver sa niche à l'université. C'était 4 associations étudiantes un peu loufoques, un texte de Clara Beaulieu, paru le 14 février 2022 dans Urbania.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier, Luc Mercure et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métaillé et Evelyne Séverin à la recherche, Nicolas Zartman à la présentation et au montage.